La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci d'être là pour une nouvelle semaine de littérature et d'histoire littéraire. Nous sommes jusqu'à jeudi en compagnie de Jack London. C'est la parution de ses œuvres en Pléiade qui nous donne l'occasion de reparler de lui. Deux volumes qui rendent compte de la grande diversité des genres utilisés par l'écrivain pour raconter, sous couvert de la fiction, tous les aspects de sa vie tragique et extraordinaire. Il se dévoile parfois ouvertement, comme dans son roman John Barleycorn, où il se décrit en alcoolique, ou parfois de manière déguisée, comme dans L'Appel de la forêt, où là il se cache derrière son personnage de Buck le chien. Mais on pourrait aussi évoquer Le Talon de Fer, où là c'est sa vision politique très dystopique qu'il met en scène par le biais de la science-fiction, Jack London et partout dans ses livres. Quatre étapes, comme d'habitude dans cette émission. Jeudi, Michel Lebris puis Jennifer Le Sueur se succéderont dans ce studio pour parler l'une de ce que la profession d'écrivain représentait pour London, l'autre de sa fuite perpétuelle, au sens propre comme au figuré, laquelle s'est souvent traduite par des départs vers des terres et des mers très dangereuses. Mercredi, c'est avec Philippe Jaworski qui a édité la Pléiade London que je m'entretiendrai. Demain, nous parlerons de son grand roman Martin Eden avec Bertrand Leclerc. Puis Thierry Beauchamp viendra nous parler d'une étrange nouvelle d'anticipation qu'il vient de traduire et qui met en scène rien moins que le génocide sur toute la Chine. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une première approche de l'homme. Dans ce studio se trouve le romancier, essayiste et biographe Bernard Fauconnier, qui, après Cézanne, Beethoven et Flaubert, s'est attelé à la lourde tâche de raconter l'histoire fascinante de Jack London, un homme dont on peut dire qu'il a cherché à se sauver, au sens, là encore, de la fuite comme du sauvetage, à travers l'écriture.
Alors, dans une auréole de splendeur et de gloire, naquit la grande idée. Il écrirait. Il serait un de ces êtres privilégiés à travers lesquels le monde entier voit, entend et sent. Il écrirait quoi ? De tout. Des vers et de la prose, des romans et des pièces comme Shakespeare. Voilà quelle était sa carrière véritable et le chemin vers la conquête de Ruth. Les littérateurs étaient les conquérants du monde et il les trouvait plus admirables que tous ces jeunes juristes qui gagnent 30 000 dollars par an et pourraient être juges à la Cour suprême s'ils le voulaient. Une fois qu'il eut cette idée dans la tête, elle le posséda entièrement et ce voyage de retour à San Francisco se fit comme dans un rêve. Écrire. Cette pensée le brûlait.
Écrire, cette pensée le brûlait, dit Jack London, par la voix évidemment de son narrateur dans son roman Martin Eden, lu ici par Guillaume Gallienne. Bonjour Bernard Fauconnier.
Bonjour.
L'écriture, Martin Eden en parle comme d'un véritable trésor, un trésor qui brûle, mais un trésor tout de même. On peut imaginer que c'est également comme ça que l'envisageait Jack London.
Chez lui, ça a été une révélation très précoce. Il a toujours voulu être écrivain parce que, enfin, disons que sa fréquentation précoce des livres lui a fait rêver à ce métier, ce qui a été pour lui un métier ensuite qu'il a exercé avec le brio qu'on sait. Mais l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est très exactement l'état d'esprit dans lequel s'est trouvé le jeune Jack London, enfin le jeune et un peu moins jeune d'ailleurs, quand il a envisagé la carrière d'écrivain, ce qui pour lui n'était pas du tout évident parce que son disons, son parcours familial était quand même assez peu privilégié et assez peu propice à une carrière littéraire.
Non, c'était pas du tout évident et on a l'impression que pour lui, écrire, c'est vraiment une question de survie.
C'est une question de vie ou de mort, quasiment. C'est-à-dire qu'il a eu une enfance et une adolescence tellement difficiles, à la fois sur le plan familial et on pourrait dire professionnel au début, que pour lui, l'écriture a été vraiment la planche de salut. C'était la condition de sa survie, c'était écrire ou mourir, parce que il a vécu des choses tellement difficiles dans les différents boulots, notamment qu'il a occupé, que quand il a découvert qu'avec l'écriture, il pourrait peut-être s'en sortir et devenir quelqu'un d'autre, il n'a eu de cesse que d'essayer de se constituer en tant qu'écrivain, ce qui a été évidemment une épreuve au début absolument terrible, mais dont il a triomphé magnifiquement.
Vous diriez que c'est quelqu'un qui a vécu en permanence en sursis ?
Oh, c'est quelqu'un qui a brûlé la vie par les deux bouts, enfin à tous égards. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait à moitié. Enfin, c'est un caractère très excessif, très entier. C'est quelqu'un qui a fait tout plus que de raison, c'est-à-dire qu'il a voyagé beaucoup, bien sûr. Ça, c'est un petit peu sa légende qu'il a constituée à travers ses voyages, à travers ses aventures, si on peut dire.
C'est une légende vraie, tout de même.
Qui est une légende vraie, un petit peu arrangée parfois, mais enfin une légende vraie, absolument. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a vécu dans l'excès, autant l'excès de travail que l'excès d'alcool, que les excès de toutes sortes, pendant les 40 ans qu'il a vécu, ce qui est une vie très courte, mais enfin qu'il a rempli comme personne. C'est presque son parcours, quand on le revisite, est quelque chose d'incroyable. C'est très étonnant.
Et vous, il a induit chez vous une forme d'excès, comme chez beaucoup de lecteurs aussi, parce que Martin Eden, beaucoup de personnes le commencent le soir et le terminent le lendemain matin.
Moi, c'est comme ça, exactement. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré, enfin que j'ai fait connaissance avec Jack London, parce que j'avais pas tellement lu London dans mon adolescence, comme c'est souvent le cas. Et en fait, un jour, je suis tombé sur Martin Eden, que j'ai commencé un soir, effectivement. Il m'a emmené jusqu'au bout de la nuit. Enfin, c'est un livre tellement extraordinaire, tellement plein, tellement dense, et puis d'une telle intensité de récit. C'est-à-dire qu'on lit ça en suivant le parcours de ce personnage, qui ressemble beaucoup à Jack London. On lit ça véritablement comme un livre de à la fois d'aventure et de un roman de formation, mais un roman de formation à l'américaine. Jack London est un de ceux qui ont réussi, ce qui est le rêve de tant d'écrivains américains, à écrire le grand roman américain, c'est-à-dire l'histoire d'une sorte de self-made man, finalement, qui se fait tout seul, absolument tout seul, qui réussit en apparence, mais la réalité est évidemment beaucoup plus complexe. Et c'est un livre extraordinaire. Enfin, si on veut commencer à lire du Jack London, je pense que beaucoup de gens ont lu London, ont lu L'appel de la forêt, enfin The Call of the Wild, puisque le titre a varié. Mais si on veut vraiment commencer à entrer dans l'œuvre de Jack London, il faut commencer par ce chef-d'œuvre qui est Martin Eden, qui est un livre extraordinaire.
Qui est un livre fondateur des lettres américaines, ce pays que vous qualifiez de brutal, sauvage, sans pitié pour les faibles. Ça, il a vraiment su le raconter.
Oui, alors c'est peut-être la raison une des raisons pour lesquelles Jack London est devenu tellement emblématique de la littérature américaine, et pourquoi son parcours est devenu quasiment une légende, c'est parce que il incarne à la fois dans sa personnalité et dans son œuvre cette violence de l'Amérique et cette recherche permanente de l'accomplissement de soi, mais dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Et enfin, toute sa vie montre que c'est une sorte de combat permanent pour arriver justement à ses fins et à ce désir qu'il a d'écrire très tôt.
Alors Bernard Fauconnier, l'histoire de Jack London, elle est peu commune, c'est le moins qu'on puisse dire, du début jusqu'à la fin de sa vie. à commencer peut-être par l'histoire de sa mère, c'est-à-dire même avant la naissance de Jack London, il y a une histoire peu commune, une histoire triste et en même temps extrêmement romanesque que celle
c'est complètement,
la mère de Jack London.
Dès le berceau, Jack London a été marqué par une histoire extraordinaire. Sa mère s'appelait Flora, donc qui venait d'une famille relativement aisée, avait quitté son milieu. C'était une drôle de personne. Enfin, c'était
rejetée
une femme
justement par son milieu.
Rejetée par son milieu, elle avait décidé de fuir et d'aller jusqu'en Californie. Alors c'était une personne assez étrange. Elle avait été atteinte d'une maladie assez grave, la typhoïde, quand elle était jeune. Donc il en était resté une taille minuscule. C'était une toute petite bonne femme qui était à demi chauve en plus, qui était à la fois professeure de piano, parce qu'elle était bonne pianiste. Elle avait reçu une éducation, on peut supposer, assez bourgeoise. Elle était bien, bonne pianiste. Elle a été professeure de piano très longtemps dans sa vie. Et puis elle était aussi férue d'ésotérisme, d'horoscope et autres. Et autres activités, disons, un petit peu incertaines.
Elle discutait avec un Indien réincarné, c'est ça qui
Oui, voilà. Plume. Oui. Alors chez elle, il y avait des séances de spirit. Le jeune Jack London a connu dans son enfance les séances de spiritisme de sa mère, où elle dialoguait en effet avec un Indien, avec les manes d'un Indien nommé Plume, qui lui disait des choses apparemment sur les personnes présentes, et elle gagnait sa vie comme ça. Alors escroquerie ou charlatanisme ou sincérité,
folie aussi, parce qu'elle
était
de ça
pas
pour sa mère.
Oui, elle était, c'est quelqu'un qui était quand même assez étrange, qui pouvait passer de qui pouvait connaître des crises de colère absolument effroyables, qui était quelqu'un d'assez, et puis dont la vie, enfin à l'origine, a été quand même assez dure. Enfin, elle a été séduite, si on peut dire, par un certain Chanet, qui était lui aussi un astrologue charlatan, un peu écrivain, mais qui n'a jamais rien publié, qui a visiblement épousé plusieurs femmes dans ses pérégrinations en Amérique. Ça lui faisait pas peur de contracter des mariages. Et puis quand le petit John, parce que au début Jack London ne s'appelait pas Jack mais John, quand il s'est annoncé, l'astrologue Chanet a pris la poudre d'escampette, il a fichu le camp, et il a laissé sa femme. Il voulait absolument qu'elle avorte, qu'elle fasse passer l'enfant. Bon, enfin, il y a eu des scènes épouvantables. Elle a tenté de se suicider, Flora, au moment où elle s'est retrouvée
plutôt mourir que
enceinte,
de,
plutôt voilà.
De pas donner,
et donc Chanet a pris la poudre d'escampette, et Flora finalement s'est ensuite mise en ménage avec un personnage, alors lui qui a été le vrai père de London, même si ce n'est pas son père biologique, enfin c'est auprès de lui qu'il a été élevé, qui s'appelait John London, donc il lui a donné son nom, et du coup on a changé son prénom, il est passé de John à Jack pour ne pas apporter le nom de son père adoptif.
À l'âge à peu près de 9 mois, vous pensez que ça a eu une influence,
très jeune, très jeune. Ça a été le début de sa vie, mais il n'a pas su la réalité, la vérité, qu'avant l'âge de 18-19 ans. C'est-à-dire qu'un jour, il a découvert cette histoire terrible du suicide ou du faux suicide de Flora. Il a cherché à savoir la vérité. Il y a eu une explication très très dure entre eux. Il a cherché, lui, à savoir. Il est parti à San Francisco pour retrouver des archives dans les journaux. Et c'est là qu'il a découvert qu'en effet, il n'était pas celui qu'il croyait. C'est-à-dire qu'il était un autre que lui-même. Je pense que à ce moment-là, évidemment, ça a fortement ébranlé son être tout entier. Et ça lui a évidemment donné beaucoup à réfléchir sur qui il était. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu un autre. Enfin, on peut expliquer les choses de beaucoup de façons. Mais ça a été absolument déterminant pour lui.
Alors, néanmoins, cette mère, elle a quand même un avantage, c'est que comme elle est pauvre et qu'elle comptera toujours sur Jack London, son fils, pour subvenir à ses besoins, quand elle voit qu'il y a un concours de nouvelles organisé par un journal qui s'appelle le Morning Call et qu'on peut gagner $25, elle pousse son fils à écrire,
ça...
et ce sera quand même pour lui la révélation qu'il sait écrire,
oui,
presque naturellement d'ailleurs.
Ça a été d'ailleurs, on peut penser, là, un des rares apports de Flora à la carrière littéraire de son fils, mais enfin celle-là a peut-être été importante, c'est-à-dire que cette intervention a été probablement importante, c'est-à-dire que effectivement, il a, il, il il a écrit ce texte qui a été couronné. Il était encore très très jeune, hein, mais évidemment, il est loin de l'écriture d'un texte pittoresque et bien troussé.
Ce premier texte.
Je l'ai eu en main, oui, je l'ai eu en main. Bon, tous les premiers textes, il faut dire la vérité, tous les premiers textes de Jack London sont quand même parfois assez maladroits. Il a puisé à plusieurs sources. L'écriture est un métier, hein, aussi, hein, comme disait La Bruyère, c'est un métier de faire un livre comme de faire une pendule. Et pour Jack London, ça a été un apprentissage quand même relativement court, parce qu'il a eu ses premiers succès finalement assez jeune, mais il a passé quand même plusieurs années de sa vie à écrire une quantité de nouvelles pour se faire la main, en quelque sorte. Et il a appris l'écriture en variant les styles, en multipliant les tentatives, souvent infructueuses d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'écrivain que nous connaissons.
Ça donne une production extraordinaire de 50 ouvrages alors qu'il meurt à 40 ans.
Ah ben c'est absolument incroyable. Bon, il faut penser que la carrière littéraire de London, c'est une quinzaine d'années, hein, pas plus. C'est extrêmement bref. Et il a écrit, bon, évidemment, une quantité colossale de textes, de nouvelles, de romans, etc. Mais parce que il s'est imposé très tôt une discipline de fer. Il s'imposait chaque jour l'écriture de 1000 mots. C'est quelqu'un qui considérait, quand on est écrivain, un écrivain, ça doit écrire. Voilà. Donc, il avait
comme
cette...
Comme un artisan.
Il a installé sa
comme
petite...
Comme un ouvrier.
Il a installé sa petite échoppe d'artisan, d'abord dans sa chambre, en écrivant des textes, au kilomètre quasiment, et puis après, évidemment, quelques-unes de ces nouvelles ont commencé à être prises dans les journaux, et là, sa carrière littéraire a commencé. Mais ça a été d'abord un très long apprentissage.
On continue d'écouter un peu et de feuilleter Martin Eden, ce roman qui est tellement autobiographique.
Une fois de plus, Martin Eden revint en Californie, cette fois enflammé par un désir d'amant. Sa provision d'argent épuisée, il s'était embarqué comme matelot de pont sur le schooner chercheur de trésors. Aux îles Salomon, après 8 mois de recherches vaines, l'expédition s'était dissoute. Martin avait immédiatement repris passage sur un paquebot à destination de San Francisco. Ces 8 mois lui avaient rapporté non seulement de quoi rester de longs mois à terre, mais encore de quoi lire et étudier beaucoup. Il avait le goût très vif de l'étude, une grande facilité, une volonté indomptable et dominant tout, l'amour de Ruth comme but. Il avait travaillé la grammaire qu'il avait emportée. Le langage incorrect de ses compagnons le choquait à présent et il s'amusait mentalement à corriger leur barbarisme. Il avait potassé le dictionnaire et ajouté 20 mots par jour à son vocabulaire. Ce fut une tâche difficile. À la barre ou en vigie, il s'efforçait de repasser indéfiniment des prononciations et des définitions. Il les répétait en s'endormant pour s'habituer à parler le langage de Ruth. Le capitaine, un Norvégien aux yeux de poisson, possédait, Dieu sait par quel hasard, un Shakespeare qu'il ne lisait jamais. Et Martin, pour obtenir la permission de lire les précieux volumes, lui lava son linge.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Jack London avec Bernard Fauconnier. On a l'impression, Bernard Fauconnier, que toute la vie de Jack London, elle est dans cet extrait, c'est-à-dire le travail intellectuel pour se sortir de la misère. Jack London, quand il était jeune, il faisait comme vous, hein, il lisait la nuit, en se tenant les paupières.
Il lisait quand il pouvait, parce qu'il a eu des métiers tellement difficiles, tellement épuisants, que quelquefois, il rentrait après 12 ou 14 heures de travail, totalement incapable. Il a travaillé dans une blanchisserie, il a travaillé comme pelleteur de charbon, il a travaillé dans plusieurs boîtes comme ça qui l'ont fort maltraité d'ailleurs et fort mal payé. Et Martin Eden, enfin ce qu'il raconte dans Martin Eden, c'est très très exactement ce qu'il a vécu. Enfin c'est d'ailleurs très paradoxal. Je pense que vous aurez l'occasion de reparler de ce roman pendant la semaine. Mais il a écrit Martin Eden un peu contre lui-même, si vous voulez. C'est-à-dire que le personnage de Martin Eden est censé représenter vraiment ce que London ne veut pas être, c'est-à-dire un personnage individualiste, très individualiste, très très nietzschéen, en quelque sorte, très hanté par l'idée du surhomme, enfin, et de la sélection naturelle. On parlera peut-être des lectures de London aussi, de sa formation intellectuelle. C'est très intéressant. Et en même temps, on se rend compte, quand on suit le parcours de Jack London, que d'une certaine manière, il rejoint son héros. Enfin, il y a quelque chose de très bouleversant dans ce livre.
Parfois, on se demande s'il s'en rend compte, même.
Oui, non, je pense qu'il a puisé à pleine main dans son expérience pour écrire Martin Eden, d'où la réussite extraordinaire de ce livre. Et en même temps, il se pose, lui, en tant que critique de son héros, puisqu'il explique que l'échec de Martin Eden vient de ce que, justement, il ne pense pas aux solutions collectives, alors que lui-même se veut socialiste, lui-même se veut progressiste, etc. Or, Martin Eden, dans son échec, reflète très exactement ce qui va être finalement le parcours de London, surtout à la fin de sa vie. Alors là, on a quelque chose de très étonnant, comment le romanesque rejoint quasiment l'autobiographique, bien que Martin Eden, encore une fois, se démarque de son auteur. Mais toute l'expérience de London avec les éditeurs, toute son amertume aussi, parce que London a été souvent très très dépressif. La douleur de Martin Eden, se rendant compte que on le célèbre pour des choses qu'il avait faites bien antérieurement et que finalement il était le même, mais qu'on n'avait pas reconnu à ce moment-là. C'est un petit peu le parcours de London lui-même.
Et c'est peut-être aussi un livre pour exorciser justement cette dichotomie que Jack London sent bien en lui, à la fois des idéaux socialistes et en fait une pulsion qui est une pulsion extrêmement individualiste, voire égoïste.
Oui. Alors bon, et puis il y a sa formation très autodidacte, formation intellectuelle qui puise à la fois dans le socialisme, voire le marxisme, mais en même temps le darwinisme social. Alors faire la synthèse des deux, c'est pas toujours évident. Il c'est un personnage en permanence déchiré entre des tendances très contradictoires.
Donc les auteurs justement aux sources desquelles il a forgé cette espèce de pensée très amalgamée, ce sont lesquels?
Il a lu, évidemment, il a lu les romanciers, les auteurs comme Dickens, Kipling, Melville,
Jules Verne, Balzac.
Et puis, oui, alors un peu moins les Européens, il est très américain, mais il connaissait Maupassant, il connaissait les auteurs européens aussi. Mais philosophiquement, si on peut dire, il a beaucoup été influencé par un philosophe anglais qui s'appelait Herbert Spencer, qui est une sorte de darwinien social, si vous voulez, qui explique que finalement la sélection naturelle s'applique aussi un petit peu au champ social, mais qu'il faut modérer ça aussi par l'empathie, par une certaine forme de bienveillance. Enfin, c'est un bricolage philosophique un peu périlleux. Et c'est un philosophe qui avait une certaine influence à ce moment-là, et London a été très marqué par cette lecture, ainsi que par celle, évidemment, de quelques autres penseurs, alors plutôt des penseurs socialistes. Alors il a lu, évidemment, le manifeste de Marx, le manifeste du Parti communiste. Enfin, il connaissait aussi pas mal le socialisme ou la pensée socialiste, disons, par ouï-dire, par l'intermédiaire aussi de commentateurs et de gens qui l'entendaient, d'ailleurs, dans les parcs, les jardins publics, etc.
Qui étaient parfois souvent des clochards.
Il y avait des espèces de personnages assez étranges qu'on appelait les profèches. C'était des sortes de clochards très cultivés, ou en tout cas qui défendaient un petit peu comme...
C'est le clochard céleste.
C'est les clochards célestes, voilà. Qui défendaient des idéaux socialistes ou des idées socialistes au coin des rues, au risque quelquefois de se faire taper dessus par les flics. Et donc il y avait toute cette mouvance quand même très très revendicative, enfin très revendicatrice à cette époque, dont il a été quand même influencé. Ça a été aussi un petit peu son école. Enfin, il y a à la fois l'école livresque, il a lu énormément, c'est un lecteur vorace, mais il y a aussi l'école de la rue, et puis ce qu'il a vu dans ses pérégrinations. On en parlera peut-être, mais enfin, il a quand même vu des choses qui lui ont clairement fait comprendre que le monde de la société américaine tel qu'il était n'était pas tout à fait satisfaisant sur le plan social, humain et moral.
Donc, et notamment dans les prisons. Mais on dirait que physiquement, quand on voit des photos de lui à 17 ans, on a l'impression qu'il en a déjà 25 ou 30. On a l'impression qu'il est d'une maturité extrême, qui se retrouve presque sur son physique, et aussi quand même très jeune, devenu extrêmement adulte.
Il a eu une maturité un peu forcée, du fait qu'il a commencé à travailler très tôt, dans des tâches souvent extrêmement dures, qu'il a de lui-même une certaine maturité intellectuelle assez vite. Enfin, c'est quelqu'un qui est suprêmement doué. Enfin, il faut voir quand même que c'est quelqu'un qui a une intelligence hors norme.
Et dans tous les domaines, par exemple, quand il s'agit de piller les huîtres dans la baie de
San Francisco, alors après, vers l'âge de 15-16 ans, il commence à être un petit peu en bisbille avec sa famille. Les choses se passent très mal. Donc, il devient une sorte de délinquant. Il traîne sur le port d'Oakland. Il finit par s'acoquiner avec une bande de pilleurs d'huîtres avec lesquels il va faire les 400 coups dans la baie de San Francisco. Et puis alors ensuite, curieusement, il s'aperçoit que le métier, entre guillemets, de pilleur d'huîtres ne rapporte pas autant qu'il le souhaiterait. Alors il passe de l'autre côté, il entre dans la patrouille de pêche qui traque les pilleurs d'huîtres. Alors il raconte ça dans Les Pirates de San Francisco. C'est un métier qu'il connaît bien, donc il est le mieux à même de savoir comment les pilleurs d'huîtres s'y prennent pour perpétrer leur forfait. Et alors en même temps, il devient une sorte de chasseur de primes, comme il y en a dans les vieux westerns. C'est très très étrange. Et puis il y a beaucoup d'autres péripéties. Il est parti dans la mer du Japon chasser le phoque. Peut-être après de la fameuse ruée vers l'or, parce que là ça a quand même été son trésor à lui. C'est là qu'il a son véritable trésor. Il l'a trouvé, mais pas tout à fait comme on pense.
Oui, parce que ça se termine toujours très mal, en fait, ces expéditions. Quand il part chercher le phoque dans les mers du Japon, au fond, il revient avec quasiment pas d'argent ou presque. Et puis,
c'est-à-dire que les marins, les pêcheurs surtout, à la moindre escale, ils descendent dans les bars, ils boivent tout, ils se battent éventuellement. Enfin, ils vont un peu. Et donc, ça, effectivement, c'est une vie d'aventure, une vie dans laquelle il ne garde absolument rien, sinon des souvenirs. Alors là, il saura en faire quelque chose.
Et le 14 juillet 1897, un navire nommé l'Excelsior accoste dans le port de San Francisco. Il est chargé d'une tonne d'or pur et les marins expliquent qu'ils reviennent d'Alaska et que en Alaska, il suffit de se pencher et on peut ramasser de l'or. Et Jack London va faire partie de ces milliers de personnes.
Oui, même des dizaines de milliers. Enfin, c'est le grand mythe de la Terre promise. C'est-à-dire qu'on raconte qu'il y a en Alaska tellement d'or, en effet, qu'il suffit de se baisser pour ramasser des fortunes considérables. Alors, il y a des dizaines de milliers de chercheurs d'or, d'aventuriers qui vont participer à l'aventure qui va être à bien des égards épouvantable, parce que les aventures c'est passionnant dans les livres, dans la réalité c'est parfois beaucoup moins affriolant. Là ça a été une aventure très marquante pour London. Alors ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est-à-dire que lui va ramener de son expédition dans le Grand Nord à peu près la valeur de 4,50 $ d'or, vous voyez, c'est pas bon. L'expédition pour lui va durer une
année. Pour y avoir laissé quand même une partie de sa santé.
Il va y laisser la santé, il va y contracter le scorbut, enfin une partie de sa santé. Enfin, il est encore très jeune, donc il aurait pu se remettre s'il avait été moins alcoolique, on va dire.
Il a quand même commencé avec l'alcool à 5 ans.
Oui, il a commencé à boire très tôt. Enfin, c'est un tempérament, je pense, très, très addictif. Donc, l'alcoolisme a été sa croix, enfin, toute sa vie. Il a vraiment été, il s'est pas mal détruit par l'alcool. Mais l'expédition dans le Grand Nord, ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il raconte évidemment des histoires incroyable de la souffrance de ces types qui sont partis avec quand même un matériel assez précaire, qui ont enduré des épreuves
par moins 50 degrés
épouvantables, par des froids terribles, et puis qui ont trouvé finalement relativement peu d'or, enfin beaucoup d'ailleurs ont dû abandonner en cours de route, beaucoup se sont fait piquer leurs dollars. Il y a eu vraiment quelque chose d'extraordinaire dans cette aventure, parce que c'est en même temps tout à fait l'esprit pionnier de l'Amérique qui s'exprime à travers ça.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture à 15h30 et nous faisons une pause comme chaque jour dans cette émission pour aller voir du côté des revues ce qui s'y raconte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Georges-Marc Habib de la revue Page des libraires. Bonjour Georges-Marc.
Et bonjour Mathieu. L'automne est là et les belles feuilles aussi.
Et justement, dans le numéro d'automne de Page, on retrouve toute la diversité de la production éditoriale, la littérature adulte et enfant, les essais mais aussi les récits.
Et oui, vous avez une semaine consacrée à Jack London. J'avais très envie de vous parler du dernier récit de Sylvain Tesson, qui est mis à l'honneur dans le numéro de Page. Sylvain Tesson, on le sait, écrivain voyageur, grand voyageur et grand aventurier, qui là nous livre un dernier livre assez surprenant. Ça s'appelle Sur les chemins noirs, c'est édité chez Gallimard. Et il nous raconte une promenade, on va dire, mais qui est quand même une belle aventure, d'une traversée de la France, du Mercantour jusqu'au Cotentin. Alors pourquoi cette traversée? Eh bien, parce qu'il avait fait une chute assez catastrophique. Il y a plus d'un an, et que sa manière à lui de se rééduquer, c'est de partir dans cette grande randonnée de pratiquement un an, de cette traversée de la France, à travers ce qu'il appelle les chemins noirs, c'est-à-dire toutes ces sentes et ces vieux chemins qui ne sont plus fréquentés ou plus vraiment fréquentables, et donc il nous fait traverser comme ça cette France désertée et désertifiée. Il nous fait redécouvrir cette France sauvage et magnifique. Enfin voilà, pour moi, ça a été vraiment l'évocation de ce que pouvait être un Jack London au XXIe siècle.
Oui, tout à fait, à moins que il n'ait pas été pilleur d'huîtres, en tout cas.
Je ne crois pas. Mais je crois que l'alcool est aussi un des grands compagnons de Sylvain Tesson, ou l'a été en tout cas.
Alors, dans la revue Page également, vous parlez du dernier livre de l'écrivain chilien, Luis Sepúlveda.
Oui, là aussi encore quelqu'un qui me fait penser à Jack London, puisque Luis Sepúlveda s'attache depuis longtemps à écrire des livres qui parlent tous aussi bien aux grands qu'aux petits, aux plus jeunes. Et là, il revient avec un livre construit vraiment comme un conte, avec vraiment plusieurs niveaux de lecture. Ça s'appelle Histoire d'un chien mapuche aux éditions Métellier. Et là, il nous restitue une fable chilienne que lui racontait un grand-oncle quand il était plus jeune, en mapuche, justement cette langue indienne. D'ailleurs, raconte qu'il comprenait pas vraiment de Mapuche, sauf son grand-oncle, c'est assez rigolo d'ailleurs en introduction de son livre. Voilà, il nous raconte quoi? L'histoire d'un chien. Un chien qui a été sauvé de la mort par un jaguar dans la montagne, dans le froid. Ce chien a été confié par ce jaguar à une famille Mapuche qui l'a élevé. Ce chien a été enlevé par des blancs, maltraité. Et ce chien va avoir toute sa vie à cœur de revenir dans sa famille d'adoption. Alors si on ne pense pas à Cro-Blanc à cet endroit-là, franchement, pour moi c'est important d'en parler là. Surtout que Cro-Blanc vient d'être réédité dans une magnifique collection qui s'appelle Libretto chez Phébus, dans laquelle on retrouve la majorité, je crois, des œuvres de Jack London, dont Martin Eden, qui est pour moi une des grandes œuvres. Et là, je vous rejoins, Monsieur Fauconnier, de Jack London.
Martin Eden, dont on parlera encore plus demain, même si on a commencé déjà à en parler. Dernier conseil, finalement, au sommaire de la revue Page, c'est une bande dessinée, Georges-Marc.
Bah là aussi, envie de rebondir un peu avec l'histoire de Jack London. Alors, plutôt un roman graphique, on va dire, puisque là, nous avons affaire à un auteur que j'adore beaucoup qui s'appelle Nicolas Dumonteuil, qui adapte un autre auteur que j'aime beaucoup, Arto Paasilinna, auteur finlandais, et donc il adapte ce roman assez étonnant qui s'appelle La forêt des renards pendus, dans lequel on va suivre comme ça un brigand qui veut se cacher d'un de ses complices et va se perdre dans la forêt, va y rencontrer un autre personnage qui est un militaire alcoolique qui veut là aussi échapper un peu à la morosité et au quotidien de sa l'armée. Enfin voilà, tout ça nous fait un roman graphique assez incroyable, avec une verve extraordinaire. Nicolas Dumonteuil adapte fidèlement ce texte de Paasilinna, et avec graphiquement, moi je trouve, un talent qui est pour moi indéniable.
Très bien. Où est-ce qu'on peut se procurer alors, à défaut d'acheter directement tous ces livres? D'abord, il faut lire en entier la revue Page. Où la trouve-t-on?
Eh bien, on la trouve évidemment en librairie, dans toutes les librairies de France et de Navarre, ou sur internet, pageetlibraire.com. Merci.
Merci Georges-Marc, à bientôt. Jack London est le sujet cette semaine de la compagnie des auteurs. Nous sommes avec Bernard Fauconnier, auteur d'un folio biographie sur cet écrivain qui a tout connu, y compris la prison.
Il l'a raconté dans Le Vagabond des étoiles.
Je n'ai plus envie de décrire, ami. J'ai encore changé de geôle. Ce sera la dernière. J'ai été transféré dans la cellule de la mort. Mon gardien fait partie de l'équipe spéciale, chargée de mes pieds de jour comme de nuit, afin que je n'attende pas mes jours. Je dois arriver vivant pour la pendaison. Autrement, le public sera dupé. La loi bafouée. Et une mauvaise note sera donnée au gouverneur de la prison. Mon premier devoir est d'avoir soin que les condamnés soient proprement et dûment pendus. Il y a des hommes qui ont une singulière façon de gagner leur vie.
Un extrait lu ici par Michel Vitold. Alors Bernard Fauconnier, Le Vagabond des étoiles, c'est une description de l'univers carcéral américain que Jack London a donc eu l'occasion de découvrir quand il a été arrêté pour vagabondage.
Oui, il faut peut-être revenir un petit peu sur les circonstances.
Sur le contexte.
Parce que le contexte.
Oui.
En réalité, Jack London avait suivi ce qu'on a appelé l'armée de Kelly. C'était en 1894.
Alors ça, il faut expliquer ce que c'est.
Oui, non, voilà, il y a eu un mouvement social à l'occasion d'une crise économique très grave aux États-Unis, et une foule, une armée véritablement de pauvres gens a voulu traverser l'Amérique pour aller jusqu'à Washington, demander au gouvernement de débloquer des fonds pour lancer une politique de grands travaux.
Quand vous dites une armée, ça représente combien de personnes?
Ça représente plusieurs milliers de personnes, parce que ils sont venus de plusieurs endroits des États-Unis, et en Californie, ça a représenté quelque chose comme 2 ou 3 000 personnes.
Enfin, c'est, oui, alors que la Californie, c'est quand même l'autre bout des États-Unis.
C'est l'autre bout des États-Unis. Alors le voyage était long, périlleux, et Jack London s'est joint à cette entreprise. Et puis au bout d'un moment, il a pris la poudre d'escampette, il a déserté en quelque sorte. Hein, puisque, enfin, c'était pas une vraie armée. Enfin, il est parti tout seul faire son périple personnel. Il a fait le tour des États-Unis. Il s'est retrouvé à New York, à Chicago et jusqu'à Niagara Falls, où là, il a été arrêté pour vagabondage. Alors, quand on était arrêté pour vagabondage, le tarif, c'était 1 mois de prison. Voilà. Donc, il s'est retrouvé 1 mois en prison, et là, il a découvert ce qu'était la prison américaine, enfin, dans des conditions absolument épouvantables. Alors, il raconte ça dans le Vagabond des étoiles, et il a absolument pris parti là à ce moment-là pour il y a une sorte de révolte chez lui devant les conditions qui sont faites aux prisonniers et qui sont faites à tous ces gens qui sont les laissés pour compte de l'Amérique. Là, ça a été véritablement pour lui une révélation. Enfin, alors c'est vrai que sa peine n'a pas été très longue, mais enfin il en a vu assez pour composer des textes à ce moment-là qui sont extrêmement revendicatifs vis-à-vis
de la
prison.
La cruauté,
les conditions épouvantables.
La camisole
alors,
de force.
Oui, ça c'est dans Le Vagabond des étoiles, c'est beaucoup plus tardif. Son aventure en prison, c'est plus, je me suis trompé, c'est dans les Vagabonds du rail. Ouais. Hein, voilà. Et alors à ce moment-là, il raconte en fait son aventure, enfin ses aventures de routard en quelque sorte, hein, puisqu'il a aussi vécu cette expérience. Et donc notamment ce passage par la prison, où alors là il va vraiment croiser la lie de l'humanité, il le dit lui-même, enfin quelque chose d'extraordinairement cruel aussi dans les comportements, une sorte de loi de la jungle absolument pas maîtrisée, enfin bon, c'est une expérience pour lui terrible. Et donc après ça reviendra dans ce fameux roman étrange d'ailleurs, une sorte de roman fantastique, une sorte qui est Le Vagabond des étoiles, où il raconte l'histoire d'un d'un détenu qui est dans une situation de détresse et qui est torturé, qui est dans une camisole de force et qui va s'évader par l'imagination jusqu'à vivre réellement les aventures qu'il raconte. Alors là, on est dans une autre dimension. Ce qui donne d'ailleurs à London l'occasion de plaider contre la prison, contre la peine de mort, contre les choses qui lui semblent les plus scandaleuses et les plus injustes dans cette Amérique encore violente qu'il côtoie.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est là aux sources, tout comme Martin Eden est une source du roman américain et puis même après du cinéma, c'est-à-dire la figure du pauvre qui s'en sort et qui à la fin se demande pourquoi il a fait tout ce chemin. Et avec ces récits de traversée des États-Unis, on est à la source d'une autre tradition américaine qui serait plutôt sur la route, Jack Kerouac, prendre la route.
Bien sûr, il y a chez London le creuset de tout un mouvement littéraire qui va ressurgir dans les années 50, 60 avec Kerouac et puis avec toute la poésie de la Beat Generation, Ginsberg, etc. Et puis même chez certains chanteurs dont l'un d'ailleurs a été très récemment couronné du prix Nobel.
Exactement,
de littérature.
Bah,
il y a vraiment là une filiation, même si évidemment c'est très différent, les circonstances sont très différentes, etc. Mais effectivement, il y a chez London cette capacité à saisir vraiment ce qui fait l'essence même de l'Amérique, c'est-à-dire aussi le goût de la conquête, le goût du déplacement d'un bord à l'autre du continent, et il le raconte d'après son expérience vécue. Alors même s'il en rajoute parfois un peu, je crois qu'il a connu toutes ces aventures, toutes ces pérégrinations avec tout ce que l'Amérique d'ailleurs peut générer de misère, de pauvreté, de détresse, parce que aussi bien les road boys qui côtoient quand il est très jeune ces gamins dont le jeu consiste à monter dans des trains et à aller quelque part,
à se coller sous les trains,
etc.
Il l'a fait d'ailleurs,
il l'a fait lui-même, le jeu consistant d'ailleurs à ne pas être blessé ou tué, enfin voilà, espèce de règles tribales, hein. On est dans une espèce de défi un peu tribal. Il faut passer des épreuves initiatiques pour entrer dans cette bande de gamins qu'il admire, hein. Même lui, il a été pilleur d'huîtres, enfin quand il voit ses gosses faire tout ce qu'ils font sur les trains, il se trouve lui encore. Alors il va rejoindre ces gamins là brièvement. Voilà, il a connu tout ça. Chose qu'on n'a pas tout à fait évoqué dans ce fameux épisode de la ruée vers l'or qui va durer un an pour lui, ce qui va ramener de plus précieux de cette aventure, ce sont les histoires. Hein. Il va ramener quasiment pas d'or, bien entendu. Il y a un chapitre de mon livre que j'ai intitulé « L'or du Klondike n'est pas où l'on croit ». Son or à lui, ça va être les histoires qu'il a entendues et dont il va faire son miel.
Et c'est les histoires, Bernard Fauconnier, qui lui permettent de se sortir des situations les plus invraisemblables. Donc c'est ça qui lui permet d'abord de gagner de l'argent, d'en gagner énormément, puisqu'il va être l'un des écrivains qui va avoir le plus de succès à cette époque-là. Et puis parfois, quand il est sur la route, ça c'est avant qu'il ait beaucoup de succès et qu'il est quasiment clochardisé, il y a des policiers qui veulent l'arrêter, et là il fait un peu comme chez Scheherazade.
Il raconte qu'un jour il se retrouve sur un banc, un policier veut l'arrêter pour vagabondage. Alors, il n'a pas du tout envie de retourner en prison. Alors il se met à lui raconter des histoires et le policier l'écoute.
Et ça marche.
Et ça marche, dit-il. Alors est-ce qu'il a un peu enjolivé la chose? C'est possible.
Il paraît que le policier lui a même donné de l'argent.
Si ça n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Voilà, il lui a donné de quoi s'acheter un steak et une part de tarte. Donc voilà, c'est déjà son génie narratif. On peut le croire d'ailleurs, parce que c'est vrai que Jack London est un formidable conteur d'histoire. C'est vraiment par cette voie du récit tendu, en même temps qui nous montre d'autres mondes, hein, qu'il a assuré sa fortune littéraire.
Songez qu'il a, il a été ouvrier d'usine, il a travaillé dans des centrales thermiques, il a été mousse à l'âge de 17 ans, il a fait de la boxe sans pouvoir rien gagner sa vie dans la boxe.
Il était pillard d'huître.
Il a été pillard d'huître.
Le roi des pillards, même.
Il a été proclamé prince des pillards d'huître de la baie de San Francisco. Et alors, toujours le côté pratique des Américains, la patrouille de police lui a proposé de passer de l'autre côté. C'est comme ça qu'on fait la bonne police. Depuis Vidocq, c'est comme ça, ça n'a pas changé. Et donc, il est devenu gendarme, puis ça l'a un peu ennuyé. Il est parti pêcher les phoques dans la mer de Bering.
Il a été
clochard. Il a eu envie de visiter les États-Unis. Il n'avait pas d'argent, donc il voyageait sans billets en se plaçant sous le plancher des wagons sur les bogies, ce qui était très dangereux. Ensuite, il a été mis en prison pour vagabondage. Ça a été sa première découverte de l'univers pénitentiaire. Et puis, au cours de ses vagabondages, il a fait partie d'une armée de chômeurs qui marchait sur le Capitole, sur Washington, pour demander au président de construire de bonnes routes. Et donc, il s'est retrouvé avec des centaines de milliers d'autres chômeurs que les Américains voyaient avec terreur arriver sur leur ville. Ben, tous ces gens-là étaient affamés et en guenilles. Et en général, on leur versait une rançon pour qu'ils aillent jusqu'à la ville suivante. Vous voyez, c'est un peu la nef des fous du Moyen-Âge. Il a raconté ça d'ailleurs dans Les Vagabonds du Rail, un livre que j'ai déjà publié et qui paraîtra, je l'espère, dans la collection bouquins. Et c'est au cours de ce périple qu'il s'est aperçu qu'il allait devenir un paumé, un fauché, un vaincu, un raté de la vie comme il l'a rencontré. Et il a décidé qu'il fallait faire des études pour comprendre la vie, pour être armé. Et il a décidé ça tardivement, puisqu'il avait une vingtaine d'années.
Résumé des épisodes précédents, si l'on peut dire, par Francis Lacassin, mais qui nous emmène quand même à un point intéressant.
Lacassin, qui a été un des grands redécouvreurs de Jack London en France. C'est quelqu'un qui a largement contribué à faire connaître.
Y compris d'ailleurs les chercheurs américains au début des années 80 renvoyés sur Francis Lacassin.
Oui, parce que curieusement, je crois que London finalement a été une époque beaucoup plus lue en France qu'aux États-Unis. C'est un auteur qui n'a pas aux États-Unis. Alors je sais pas trop ce qu'il en est maintenant, mais qui n'a pas aux États-Unis la cote qu'il a eue et qu'il a encore en France. Alors notamment, il y a eu une grande vague London dans les années 70. Hein, on a à peu près tout republié à ce moment-là, et c'est là qu'on a découvert.
C'est peut-être justement la Beat Generation qui a amené tout ça.
Oui, voilà, je pense que c'est dans la foulée aussi de ce goût pour une littérature, disons aérée, hein, qui ne s'entend pas trop l'enfermer. Et ça a été aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir, parce qu'on connaissait quelques-uns des textes qu'on faisait lire aux adolescents, hein, l'appel de la forêt ou The Call of the Wild, hein, l'appel sauvage, et le Croc blanc, etc. Mais les grands romans de London, Martin Eden, le Talon de Fer, c'était des livres totalement oubliés ou quasiment oubliés. Et là, on les a redécouverts et c'est une très bonne chose.
Et Francis Lacassin nous emmenait jusqu'à son retour sur les bancs de l'école qu'il a quitté très jeune. Et ça, alors, c'est quand même assez extraordinaire arrive à rentrer à Berkeley après avoir vécu toutes ses aventures.
Oui, parce que bon, il a vécu beaucoup de choses. Il s'est promené, parfois à son corps défendant dans différents milieux. Et puis rentrer à Berkeley, il se dit qu'il faut qu'il reprenne ses études parce que rentrer en Californie, il se dit qu'il faut qu'il reprenne ses études. Donc il va passer le concours d'entrée à l'université de Berkeley, et c'est un concours assez difficile, l'entrée ne se fait pas comme ça, donc il va préparer ça pendant quelques mois, alors là en travaillant comme un forcené, comme il a toujours fait, comme il fera toujours, c'est-à-dire qu'il va brûler les étapes et avaler en quelques semaines le programme d'un an ou deux, et il va réussir d'ailleurs brillamment son entrée à Berkeley, commencer des études universitaires. Et puis au bout de 6 mois, il abandonne parce que d'abord la famille a besoin de lui, et puis il n'est pas à l'aise dans ce milieu universitaire qui est fréquenté quand même par des bourgeois, des gens qui font des études plus par amusement que par nécessité. Donc il juge ces gens sans sève, sans intérêt. Il pense qu'il n'a rien à faire avec eux et il va partir à nouveau pour vivre sa vie et puis surtout commencer à réaliser son ambition qui est celle d'écrire.
Et justement, il publie Le Fils du Loup le jour même de son mariage. En tout cas, c'est le jour où sort en librairie ce livre-là. Peut-être que ça nous permet de parler un petit peu des femmes pour Jack London. Il nous reste finalement pas tellement de temps, mais c'est une biographie tellement dense.
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Jack London et ses amours. C'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est marié de façon très, comment dire, très paradoxalement, il pensait que le mariage est une sorte d'association, que ça doit être une source de stabilité. Et donc, il a demandé en mariage, tout en étant à la même époque amoureux d'une jeune personne qui s'appelait Anna Stransky, qui est une jeune intellectuelle avec laquelle d'ailleurs il a écrit un livre, enfin un livre des lettres qu'ils ont échangées, notamment sur le sujet de l'amour, et qui ont été publiées, bon, au grand scandale d'ailleurs d'un certain nombre de puritains en Amérique. Mais il a proposé le mariage à une jeune femme qu'il connaissait, qui était la sœur d'un de ses amis, qui s'appelait Bess Madder, qui l'avait aidé d'ailleurs à préparer son concours d'entrée à Berkeley, avec laquelle il faisait de la photo, hein, il développait des photos. Et donc cette jeune personne, qui n'était pas particulièrement dans ses goûts, enfin c'était pas tellement son genre, mais il l'aimait bien, c'était quelqu'un qu'il considérait comme extrêmement solide, et il pensait qu'il pourrait faire avec elle une association fondée sur la confiance mutuelle, et qui pourrait avec elle fonder une famille. Ce qu'il a fait, il a épousé cette femme.
Mais c'est quand même quelqu'un qui reste passionné. Et
alors évidemment, il s'est très vite rendu compte que ce type d'arrangement, en quelque sorte, ne pouvait pas convenir dans la durée, puisque il était en même temps amoureux ailleurs et qu'il n'avait qu'une envie, c'était de vivre des amours avec intensité. Alors avec la jeune Anna, les choses n'ont jamais pu aboutir, mais il a rencontré aussi, à peu près à la même époque, une jeune femme, qui s'appelait Charmian, et qui est devenue, alors après qu'il eut divorcé avec Bess, parce que le mariage n'a duré que 2 ou 3 ans, ça ne pouvait pas fonctionner. Ça va très vite, la vie de Jack London, ça va très très vite. Et là, donc, il a engagé une relation avec Charmian, qui est devenue sa deuxième femme et qui l'est restée jusqu'au bout. Même si, entre-temps, il y a eu évidemment chez Jack London, qui était un passionné et un bouffeur de vie, il y a eu évidemment quelquefois des relations, on va dire, extra-conjugales. Mais c'est quelqu'un qui a énormément compté pour lui, Charmian. C'est quelqu'un qui était qui lui correspondait tout à fait. Gay, enjoué, extrêmement brillante. Une femme qui était tout à fait à son niveau, en quelque sorte.
Et donc, Charmian Kittredge, car oui, tel est son nom, mm-hmm, va le suivre finalement dans toutes ses fantaisies.
Ah, elle va le suivre au bout du monde.
Quand il s'agira de partir dans un voyage qu'on racontera au cours de cette série sur un bateau qu'ils se sont fait construire, quand il s'agira aussi...
À grand frais et à grand peine.
Quand il s'agira également de construire un ranch que vous appelez, je crois, le ranch des illusions.
Oui, le ranch des illusions, enfin c'est Wolf House, enfin ça c'est plutôt vers la fin de sa vie, à partir de 1912, quand l'illusion du grand voyage autour du monde s'est brisée sur la réalité. Ils vont rentrer en Californie et là il va faire construire un ranch absolument pharaonique, dans lequel il veut faire une sorte de société idéale, en quelque sorte. Une sorte de phalanstère presque, avec des élevages d'animaux, et en même temps il dessine les plans d'une maison absolument extraordinaire. Et malheureusement, cette maison va brûler le jour même de son inauguration, quasiment, parce que, alors, incendie criminel ou pas, on n'en est pas très sûr. Mais enfin, c'est vrai que ce qui caractérise London, c'est quand même par moments une certaine folie des grandeurs. Ce serait très intéressant d'ailleurs de revenir sur ce voyage. Faut pas oublier que le voyage autour du monde, enfin, qui n'a pas été effectué jusqu'au bout, faut penser que c'est en bateau, sur ce Snark, hein, qui a été quand même, qui a été à la fois son rêve et son cauchemar, qu'il a écrit Martin Eden. Ça a été vraiment pour lui un moment très très important de sa vie d'écrivain.
Et alors qu'il a 40 ans, on retrouve le corps sans vie de Jack London sans qu'on puisse jamais savoir réellement si c'est un suicide ou s'il est mort pris trop de substances.
Oui, enfin, il est probable qu'il s'est injecté une dose de morphine qui l'a tué, certainement, mais il était dans un tel état de délabrement physique qu'on peut penser que la mort lui était promise à brève échéance. Il était vraiment au bout du rouleau. Enfin, il avait des problèmes rénaux, des problèmes de tous ordres qui, de toute façon, le condamnaient assez rapidement à quitter ce monde.
Merci beaucoup, Bernard Fauconnier, d'avoir commencé, simplement commencé. On a encore beaucoup de choses à raconter toute cette semaine, à explorer donc la vie et l'œuvre de Jack London. Tout de suite, pour terminer cette émission, un détour par l'univers poétique de Jacques Bonnafé.
Bonjour, cette semaine nous la passons avec Georges Perros qui nous emmène sur les rythmes féroces de ses 8 pieds octosyllabes pour la vie ordinaire. On est avec les hommes, on meurt inconsolé parmi les dieux, dit René Char. En exergue, deuxième page, la préface est à l'intérieur. Je tourne, une vie ordinaire, premier poème. On m'a bien dit que j'étais né, mais de si drôle de façon. Je me méfie des gens qui m'aiment, sans trop pouvoir faire autrement. Bref, j'attends confirmation de cet événement suspect, rien ne m'ayant encore donné l'enviable sensation d'être tout à fait là sur terre, plutôt que dépendant d'un ciel qui change souvent de chemise, bien plus que moi. N'importe, allons, je suis pour le discours humain, je suis pour la moitié de pain, le désespoir c'est de se faire, et si mon langage vous pèse, quoique si léger, si fuyant, rien de plus facile à votre aise que de jeter ce livre au vent. Deuxième poème que nous sommes allés chercher. Je suis né dans une mansarde d'où l'on entendait le matin des laitiers qui, drelin, drelin, réveillaient les biberonneuses. Ici naquit Georges Machin qui pendant sa vie ne fut rien et qui continue, il aura su tromper son monde en donnant quelques fugitives promesses, mais il lui manquait, c'est certain, de quoi faire qu'on le conserve en boîte d'immortalité. Prendre l'air était son métier. La poésie est dans la rue, dans le ruisseau, elle est tout à fait dénuée de hiérarchie, elle ne sait pas, elle ne sait rien, elle est le champ de notre ignorance, elle ne connaît pas son homme, ni ses amours, ni ses idées poétiques, ni ses ambitions sociales, elle est ce qui est toujours là, dans nos jours et nos nuits difficiles, disait Georges Perros. Je devais, mais beaucoup plus tard, faire la connaissance émue des parents qui m'étaient échus, ainsi apprendre que mon père travaillait dans les assurances du côté de la rue Têtebout. J'ignorais alors que ma mère était fille de paysans du Pas-de-Calais patoisant, mon petit fieu et la Del Ducasse. J'allais en vacances à Courrières, près de Hénaliétard, les corons me faisaient grosse impression, Vésuve d'une triste terre et les pavés que les cyclistes empruntent pour mieux savourer la victoire au bout de la piste. Mon grand-père alors me hissait sur son cheval à petit trot, nous allions jusque dans les champs, tartines de pain, cassonade, j'aimais me sentir dans le vent, dans le blé bleu qui pique aux jambes. Le blé n'est pas bleu, je le sais, mais un mot en amène un autre, et tout à la couleur du ciel quand notre œil est en nouveauté. Autre citation de Georges Perros, tirée de la préface, tout à fait passionnante comme toutes les préfaces de Poésie Gallimard. Je vais toujours, on dirait par vice, au mot le plus usé, le plus clochard, le plus chargé. Ce n'est pas l'amour des mots entre eux que je cherche, non, mais plutôt leur aptitude à se refiler la même maladie. Les mots nous ressemblent, il faut et il ne faut pacifier. Et vous l'avez reconnu, il s'agit d'un papier collé, autre titre de Georges Perros.
Voilà Jacques Bonnafé qui a choisi pour nous cette semaine des extraits de La vie ordinaire et de Papier collé de Georges Perros. Merci à vous Bernard Fauconnier pour cette exploration de la vie particulièrement tumultueuse de Jack London. La biographie que vous lui avez consacrée, évidemment, elle est toujours disponible chez Gallimard. C'est dans la collection Folio Biographie.
Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait aujourd'hui Jacques Hubert et à la préparation, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Vous pouvez réécouter et podcaster sans modération tous les épisodes de La Compagnie en attendant demain et une émission consacrée à deux livres de Jack London, Martin Eden, ce sera avec Bertrand Leclerc en première partie, et puis une petite nouvelle, L'invasion sans pareil, une nouvelle dans laquelle London imagine que les Chinois vont être rien moins que supprimés par des armes bactériologiques. Nous parlerons de cette étrange petite chose avec son traducteur Thierry Beauchamp. Mais tout de suite sur France Culture, vous retrouvez Nicolas Martin pour la méthode scientifique.